Ce message vous est proposé gratuitement, et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, donc je vous encourage, pour ceux qui veulent suivre dans votre Bible, on va lire le premier verset qui va introduire cette prédication. Et qui se trouve dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 13, 13. C'est le dernier verset de cet épître. Et donc il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et c'est en fait un verset qui représente la Trinité. Donc il peut y avoir toutes sortes de discussions sur la Trinité ou pas la Trinité. Mais bien que le mot Trinité n'apparaisse jamais dans la Bible, il y a pourtant pour nous la réalité d'un Dieu qui se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est dans ce verset en particulier que ces trois personnes sont exprimées d'une certaine façon. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, on comprend l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit. Et un autre passage, une autre traduction dit « La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous ». Et donc, nous avons des fois tendance à favoriser l'une ou l'autre personne de la Trinité. Et nous allons voir que, en réalité, notre expérience chrétienne va nous conduire à développer une relation avec chacune des personnes. On va comprendre quelle est finalement la réalité de Dieu. On ne va pas le comprendre totalement, parce qu'on aura toujours besoin de découvrir encore des nouveaux aspects. Je me rappelle en particulier, tout au début de ma vie chrétienne, j'ai eu l'occasion de participer dans un groupe de prière à une étude biblique, et là la personne qui dirigeait le groupe était quasiment aveugle. Et j'étais impressionné par sa vie spirituelle et sa façon de diriger. Et donc, il disait que des fois, nous avons une vision trop christocentrique. Nous mettons Christ au centre. Et c'est très bien de valoriser la personne du Seigneur Jésus, le Sauveur, le Roi des Rois, et de tout ce qu'il a fait pour nous. Et ce soir-là, il a dit, « Mais nous ne devons pas oublier que Jésus est venu pour nous conduire au Père. » Ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, oui, il ne faut pas oublier. Il est venu pour nous conduire au Père, pour qu'on puisse avoir de nouveau cette relation. Et combien de personnes n'ont pas une bonne relation avec leur Père terrestre, parce qu'il était absent, parce qu'il n'était pas comme il fallait, pour toutes sortes de raisons. Et alors, on a du mal avec notre Père céleste aussi. Mais il est venu pour nous conduire au Père et pour nous révéler le Père. Donc, Jésus a dit, nul ne peut venir au Père s'il n'est pas attiré. Donc on est attiré au Père. Jésus nous révèle le Père. Et quand il parlait du Père, c'était une nouveauté pour ses disciples. Spécialement dans l'évangile de Jean, on apprend beaucoup de choses concernant le Père. Et alors les disciples étaient étonnés pour certaines choses, parce qu'ils avaient entendu parler de Yahvé, le Dieu très saint, etc. Mais là, Jésus leur donnait, je leur ai donné ton nom. Et ce nom, c'était le nom de Père. Vous avez un Père au ciel. C'était comme une révélation pour beaucoup de personnes. Et donc, un des disciples a dit, « Mais montre-nous le Père, cela suffit. » Et Jésus leur dit, « Mais il y a si longtemps que vous êtes avec moi, vous n'avez pas compris que quand vous voyez aussi une image du Père. » Donc déjà, il a montré qui était le Père. Et donc, après, c'est aussi dans l'Évangile, selon Jean, qu'il annonce le Consolateur, le Saint-Esprit. Ce qui, quand vous regardez, vous voyez partout dans l'Ancien Testament des images ou des expériences ou des miracles qui ont été déclenchés par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dès le début, il n'est pas apparu à la Pentecôte. Hein. Dès Genèse 1, il nous dit « l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Donc il était toujours présent. Mais maintenant Jésus dit « il y a quelque chose de nouveau qui va se manifester ». Le Consolateur va venir. Et donc, on se trouve dans ce cadre de 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, de même que je vous ai introduit cet ensemble de messages en disant la bénédiction de Jean dans 3 Jean 2 quand il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme » qui ressemble beaucoup au vœu de nouvelle année, santé, prospérité, mais qui était en fait le désir de l'apôtre Jean pour quelqu'un qu'il connaissait et qu'il aimait particulièrement, mais un désir et une volonté qui s'étend à chaque être humain. Dieu veut qu'on prospère et que ce soit en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme, que ça prospère aussi à l'intérieur, pas seulement certaines réussites extérieures. Donc c'était la santé, la prospérité, ce que les gens recherchent le plus au monde. On a vu Jude 20, où il nous est dit « bien-aimé » à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a pour les bien-aimés ? Il nous est dit « édifiez-vous sur la base de votre très sainte foi. Construisez votre foi. Construisez, rajoutez chaque jour à votre foi. » Qu'est-ce que c'est la foi ? C'est la confiance en Dieu. On ne peut jamais avoir trop confiance en Dieu. Développez votre confiance. Encore une fois, comment avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Donc, les gens, vous ne pouvez pas simplement dire « Mais tu n'as qu'à avoir la foi. » Si vous ne connaissez pas Dieu, comment auriez-vous confiance en lui ? Donc, il faut apprendre à connaître comment il est, comment il se comporte, comment il parle. Et il nous est dit « Priant par le Saint-Esprit. » De prier. Donc, ça, c'était un autre aspect. Toujours cette communication avec Dieu, cette relation par la prière. Je l'ai défini comme étant la respiration de notre âme. On ne peut pas imaginer que nous vivions en apnée, on retient notre respiration pendant très longtemps, quelques secondes, et après il faut nous inspirer. Et on sait que des fois on respire mal, alors on n'est pas bien. Il faut avoir une respiration où vraiment notre être est renouvelé. On a été créé comme ça. Donc cette relation avec Dieu où nous sommes en prière constamment. Ça ne veut pas dire on s'enferme dans une chambre et on prie 24 heures sur 24, mais on met Dieu dans notre quotidien. Et il nous est dit maintenant, priant par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit seul qui nous permet d'avoir une communication de qualité avec Dieu. Sinon, on aurait une communication comment ? Par nos sens ? Visuels ? Vous l'avez vu ? Non, il est invisible. Vous l'avez entendu ? Dieu peut des fois parler de manière audible, mais très peu d'entre nous ont entendu une voix audible de Dieu. Sentir, toucher, toutes ces choses ne marchent pas avec Dieu. Il est esprit, et nous sommes des esprits, nous habitons dans un corps, c'est notre maison, c'est notre enveloppe, c'est notre façon dont notre esprit peut se manifester sur la terre. Nous avons une âme. Dans notre âme, il y a le siège des émotions, des sentiments, de la volonté, l'intellect, toutes ces choses y sont. Mais il nous est dit que c'est le Saint-Esprit qui nous permet cette communication, que la communion et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc que vous ayez au quotidien cette capacité, vous l'avez déjà la capacité, mais cette conscience de « je communique avec Dieu par son Esprit ». Il est là, le Saint-Esprit est là. C'est pas quelque chose de mystérieux, ou même les gens qui ne sont pas spécialement croyants, ils disent des fois, c'est pas par une opération du Saint-Esprit que ça va venir. On le dit comme ça dans des choses du quotidien. Mais le Saint-Esprit est là. Nous devons aussi cultiver une relation avec lui. Pourquoi ? Ben, premièrement, on va avoir 3 points. Premièrement, parce que le Saint-Esprit est notre aide ou notre assistant. Quand on pense dans le monde du travail, assistant, ça veut dire que c'est pas la personne principale, d'accord ? Vous pouvez imaginer dans un cadre d'hôpital, vous avez le chirurgien en chef, et puis vous avez peut-être d'autres médecins, et puis vous avez quelqu'un qui est en charge de l'opération, et puis il y a des assistants. Et là, curieusement, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre assistant. Vous ne pensez pas que c'est un peu bizarre de nous, on aurait envie de dire, mais c'est à l'envers. C'est nous qui devrions être ses assistants et lui avoir le premier rôle. Et il se trouve que c'est Dieu qui nous a placés sur terre pour que nous soyons ses témoins. Et il a choisi d'avoir un rôle d'aide et d'assistant à notre égard. C'est presque incroyable de le réaliser. Mais c'est nous qui sommes en charge de ce qui va se faire. C'est à nous de le faire. Et il va nous assister. C'est à nous de vivre notre vie. Il ne va pas la vivre à notre place. Mais il a dit qu'il serait toujours notre aide, qu'il serait à notre côté. Alors c'est bon toujours quand on déclare des choses qu'on lise aussi quelque part. Est-ce que c'est écrit ou est-ce que c'est juste mon avis ou mon opinion ou ma façon de voir? Eh bien, il nous est dit dans Romains 8, verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il nous est dit de le même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Moi je crois que dans ce monde, on manque beaucoup de prières. La prière, c'est permettre à Dieu d'intervenir. La prière, c'est aussi lui demander d'agir dans certaines circonstances. Et les gens relèguent la prière à quelque chose de... d'extrême. Quand j'ai essayé tout ce que je pouvais et que je sais plus quoi faire, alors je prie. Alors que l'idée de Dieu, c'est l'inverse, c'est de dire, invite Dieu dès le début à agir avec toi. Mais remarquez bien, si c'était le Saint-Esprit qui était celui qui doit prier, alors la prière ne poserait plus de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque c'est lui qui le ferait. Mais il ne le fait pas à notre place. Il fait seulement son rôle d'aide à notre côté. Seulement, entre guillemets. Et donc, ici, il nous est dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Dans certaines circonstances, on ne sait même pas quoi prier. On ne sait même pas quelle est la bonne chose à faire. Mais Dieu nous aide et nous aide à comprendre qu'est-ce qu'il convient de demander. Il y a des gens qui disent, Seigneur, fais ceci, ou alors fais cela, ou encore autre chose. Et après, ils continuent pour faire humble, et disent, si c'est ta volonté. Comme ça, tout est réglé. Mais la Bible nous montre bien davantage de dire, cherche plutôt à comprendre qu'est-ce que Dieu voudrait dans cette situation. Ensuite, prie dans ce sens, et alors le Saint-Esprit vient à notre aide pour nous conduire dans cette direction. Donc, il y a des excès, il y a des chrétiens qui disent à la légère, tout le temps, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, le Saint-Esprit fait ceci, le Saint-Esprit fait cela. Il, entre guillemets, dans le langage familier, le met à toutes les sauces. Il est tout le temps, partout, on a l'impression que c'est tellement super spirituel que le Saint-Esprit est tout le temps à leur révéler des choses extraordinaires. Bien que le Saint-Esprit veuille être à nos côtés et être avec nous tous les jours, il ne faut pas dire à la légère que Dieu m'a dit ceci, cela. Il faut être des fois un peu plus sérieux en disant « je crois que Dieu m'a dit ça » ou « je pense ». Mettez le « je » à la place, c'est des fois plus prudent. Parce qu'après, quand c'est pas la réalité, les gens qui vous ont écouté sont confus, ils disent « mais Dieu a dit ça et pourtant, voilà ce qui se passe hein ». Je me rappelle d'un exemple, une église où il y avait plus de pasteurs. Et puis, donc il y avait une réunion de prière, et puis un homme qui était relativement simplet, était un peu limité intellectuellement, et lui dit, j'ai un sujet de prière pour Dieu. Alors on lui dit quoi? Comment? On ne peut pas prier pour Dieu, il n'a pas de besoin. Il dit, mais si, Dieu, il est confus. Et il a dit, il y a je ne sais combien de candidats qui ont dit que Dieu leur a dit qu'ils seront le prochain pasteur de cette église. Et alors, comment est-ce possible? Parce que chacun disait, Dieu m'a dit que je serai. Vous voyez, donc Dieu n'est pas confus. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. C'est seulement eux qui le pensaient, qui l'imaginaient. Par contre, j'ai dit un excès où certains disent toujours un peu à la légère ceci, cela. Mais pourquoi pas pour nous imaginer davantage que Dieu soit intéressé par notre quotidien et que le Saint-Esprit soit vraiment celui qu'il est, c'est-à-dire qu'il veut être notre aide. Parce que certaines personnes pensent, mais tu crois vraiment que Dieu veut t'aider dans ton quotidien? Il a peut-être d'autres choses à faire, plus importantes. Mais la bonne chose, c'est que Dieu étant... omnipotent, pouvant tout puissant, il peut être à tout moment, partout dans l'univers, nous pouvons avoir son attention, et il nous est dit même pour les petites choses, il est intéressé. Donc il veut vraiment être notre compagnon. Avec un langage moderne, on dirait, il veut être notre coach. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très actuel et vous avez le coaching pour toutes sortes de choses. Si vous avez des besoins de conseils en entreprise, il y a des consultants, il y a des coachs. Si vous cherchez un emploi, il y a des gens qui vont vous donner des conseils. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez avoir un coaching minceur, vous pouvez avoir des gens de toutes sortes qui vont faire ce travail d'aide, assistant, etc. Et donc, si quelqu'un veut perdre du poids et qu'il a un coach pour mincir, ben, c'est pas le coach qui va perdre du poids et qui va aller dans la salle de sport ou faire de la gym ou changer ses habitudes alimentaires. C'est la personne, voyez. Et donc, de la même façon, si vous parlez d'un coach sportif, quelqu'un qui dirige une équipe, c'est pas lui qui est sur le terrain, qui doit marquer les buts, qui doit courir, etc. Il est seulement là pour donner des conseils, pour indiquer une stratégie, pour dire ce qu'il y a à faire. Donc, dans ce sens, il y a des choses dans notre vie, ce n'est pas Dieu qui les fait à notre place. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il se tient à nos côtés. Il est là pour nous aider. Mais il fait quand même un peu plus que de donner des conseils. Et ça, on va le voir dans un instant. Parce que non seulement il donne des conseils, parce que ça aussi, il y a des gens qui donnent des conseils, mais qui ne vous disent pas comment y arriver. Ils disent, t'as qu'à faire ci, faire ça, etc. Un peu comme quand on dit que quelqu'un est en train de se noyer, ce n'est pas le moment de lui donner des conseils de comment apprendre à nager. Là, il faut l'aider concrètement. Donc, il ne faut pas juste de l'extérieur dire simplement ce qu'il y a à faire, mais Dieu fait plus que ça au travers du Saint-Esprit. Il est vraiment avec nous dans ce que nous faisons. Donc, on peut encore se poser une petite question par rapport à notre relation avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut lui parler directement, le prier ou non? Mais il n'est pas interdit de parler au Saint-Esprit dans la mesure où c'est une personne de la Trinité. D'accord? Vous pouvez avoir une relation avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Mais on ne voit pas dans la Bible non plus que les apôtres étaient en train de prier comme ça. Saint-Esprit vient et fait ceci et fait cela, etc. On voit le cadre biblique tel que la prière se déroule, c'est on adresse des prières au Père dans le nom de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui opère les miracles. C'est l'intervention de Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous allons nous en tenir à ce que nous voyons dans le cadre de la parole de Dieu. On prie le Père dans le nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais voir la deuxième partie, ce serait dans Ézéchiel, au chapitre 37, c'est le passage de la vallée des ossements. C'est un passage prophétique. On replace dans le contexte, c'est une prophétie sur une renaissance du peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël a passé par des hauts et des bas, et la Bible nous dit que toutes les choses qui leur sont arrivées sont comme des exemples pour nous, de choses à imiter ou de choses à éviter. Et à un moment donné, ça n'allait pas très fort pour le peuple d'Israël. Il y a eu des moments où ils étaient vaincus par des armées ennemies, il y a des moments où ils étaient déportés, il y a eu des moments difficiles, et donc Dieu parlait par la bouche des prophètes pour réveiller certaines choses. Et voilà ce qui arrive à Ézéchiel, il dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Au-delà de tout l'aspect prophétique, de tout ce qui concerne Israël, je voudrais simplement dire que pour nous, ce que nous allons en retenir aujourd'hui, c'est qu'une vallée d'ossements, ça peut représenter quelque chose qui est mort dans notre vie. Quelque chose où on n'a plus d'espérance, quelque chose qui est cassé. Ça peut être une relation brisée, une vie gâchée, une maladie incurable, une dépression profonde. Des choses où on a l'impression qu'il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus de retour possible de la vie. Parce que nous, on dit un peu à la légère, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si vous avez une petite maladie de quelque chose, vous espérez que ça va s'arranger. Mais s'il y a un diagnostic du médecin en disant vous n'avez plus que quelques jours, quelques semaines, etc., c'est autre chose. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui a été trop loin dans une relation et maintenant c'est terminé, il se passe plus rien, pas possible de pardonner ou d'autres choses comme ça. Donc, ici, il nous est dit que l'Esprit de Dieu, qui, je vous rappelle, veut être notre aide, nous transporte dans cet endroit. Il ne veut pas que ce soit un endroit d'échec. Il ne veut pas que ce soit le cimetière terminé. Il dit, même là, il dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Il dit, « Qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Est-ce que tu crois qu'il y a encore quelque chose à faire ?» Le prophète répond prudemment, il dit pas oui ou non. Il dit, « Éternel, tu le sais. » Il ne se prononce pas. Mais pourtant, on peut dire, Dieu lui tend la perche. Il dit, « Est-ce que tu crois que c'est encore possible ?» Il dit, « Tu le sais. » Alors, on rentre pas dans les détails. Il dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur. Parle sur cette situation. Dis quelque chose. Dis, je crois qu'il y a quelque chose qui est possible encore. » On peut aussi dire, bon, ben, c'est terminé. Mais non, il lui dit, ossement desséché, écoutez la parole de Dieu. Vous imaginez quelqu'un qui parle à des ossements desséchés? Nous parlions dernièrement d'une situation, justement, de quelqu'un qui se promenait dans le cimetière et qui parlait à quelqu'un qui est dans la tombe depuis longtemps. Quand les spectateurs de l'extérieur voient ça, ils se disent, bon, ça craint un peu, hein, c'est, mais, et ici, il nous a dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est un peu comme le piège que voulaient tendre les Sadducéens à Jésus. Et on dit, voilà, on a une histoire pour toi, Jésus. J'aimerais savoir ce que tu penses. Un homme, voilà, était marié, et puis en fait, il est mort, et la femme, elle a eu un autre mari, etc., jusqu'à 7 fois. Et il dit, mais à la résurrection des morts, elle sera la femme de qui? Donc, c'était la bonne question. Et Jésus leur dit, vous êtes grandement dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Et pour lui, il dit, tous sont vivants. Tous les êtres qui ont été sur terre restent des esprits qui sont vivants devant Dieu. Et donc ici aussi, Dieu est celui qui explique que même si on a l'impression qu'une situation s'est terminée, qu'on ne peut plus rien faire, eh bien, lui peut encore, parce qu'il est l'Éternel. Il peut redonner vie à une situation difficile. Donc on ne rentre pas dans l'interprétation maintenant d'Israël et de tout le reste. Juste rappelez-vous que l'Esprit de Dieu peut nous saisir dans une certaine situation, peut nous amener à parler sur des choses et peut redonner vie à quelque chose qu'on ne croyait pas possible. La même question était celle de Marie quand, dans Luc 1, l'ange Gabriel est venu pour faire l'annonciation. Voilà, tu seras enceinte, tu auras un fils, tu l'appelleras Jésus, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, etc. Et donc, Marie dit, comment cela se fera-t-il? Comment est-ce possible? Comment une jeune fille peut avoir un enfant sans avoir d'homme, de mari? Et l'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc la même puissance du Saint-Esprit qui est à l'origine de Genèse pour la création est celui qui nous amène à prophétiser dans une vallée des ossements, là où on pense qu'il n'y a plus de désespoir, qui est le même qui couvre Marie dans une situation qui pour elle lui semblait incroyable, impossible. Et dit, mais c'est comme ça que ça se passera. Je ne t'explique pas exactement comment ça va se passer. Mais je te dis simplement, quand le Saint-Esprit vient, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et nous savons que l'ombre, ce n'est pas simplement ce phénomène physique où la lumière a un obstacle et il y a de l'ombre. C'est plus que ça. C'est ce qui accompagne le Saint-Esprit. Dans une étude plus longue, on pourrait dire, c'est l'onction. C'est ce que certains dans l'occultisme appellerait peut-être l'aura, le rayonnement. Mais il y a une réalité d'une action de l'esprit. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est un esprit de vie qui est capable de donner la vie là où il y avait la mort. Et donc, le troisième point dans cette vallée des ossements, c'était une situation d'impossibilité, une deuxième situation, celle de Marie, et le troisième, l'importance de prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Les gens pensent toujours prophétie, c'est annoncer l'avenir, comme un peu une voyante quelqu'un qui ferait de la divination. Mais en réalité, quand nous parlons de la part de Dieu, nous parlons de choses que nous voudrions voir se réaliser. Donc il y a un lien, vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu nous appelle à parler, de sa part en disant « c'est possible, quelque chose peut encore se produire ». Je me demande, je ne fais pas de prédication sur les silences de la Bible, mais le fils prodigue, quand il était parti loin de son père, et si on demandait à ce père, qu'est-ce que tu penses de ton fils, celui qui est parti avec l'héritage loin de toi? J'ai l'impression que ce père aurait pu dire, ben, je crois qu'il reviendra un jour. Je crois que quelque chose est encore possible. Je crois que je le retrouverai. Ben, vous pensez pas qu'il y a ça du sens? Et à l'inverse, il y a des gens qui disent, non, il changera jamais, il a toujours été comme ça, etc. Vous pouvez choisir la façon dont vous allez parler. Et donc, ce père a vu ce miracle d'un fils qui revient. Et Romains 4 nous dit quelle était l'attitude d'Abraham, qui était aussi dans une situation impossible. Que nous est-il dit d'Abraham? Romains 4, verset 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et il nous est dit, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et donc c'est comme ça qu'ils ont eu cet enfant de la promesse, Isaac. Alors que dans le naturel, plus rien n'était possible. Il avait 100 ans, sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants, mais il y avait la promesse de Dieu. Et il nous est dit qu'Abraham est considéré comme le père de la foi, celui qui a montré l'exemple. Il a continué de croire que Dieu peut le faire. Et donc le dernier point, c'est un autre consolateur. Jésus, parlant du Saint-Esprit, dit que c'est un autre consolateur. C'est celui qu'il voudrait que nous puissions réaliser qu'il est avec nous tous les jours. La première référence au consolateur est dans Jean 14, au verset 25. Donc il parle à ses disciples et dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais il les prévient, il dit, il y a le moment va venir maintenant bientôt où je ne serai plus avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit, moi je m'en vais, je ne serai plus avec vous, et un autre viendra, il sera avec vous. Et même il dit plus à un moment donné, il dit, maintenant il est avec vous, et après il sera même en vous. Il y aura quelque chose que vous n'imaginez pas encore, quelque chose qui n'avait jamais existé depuis le début de l'humanité, que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans une personne humaine. Jésus est le premier en qui l'Esprit de Dieu est habité. Et donc ce mot consolateur, dans le grec, c'est le paraclet. Et donc il y a plusieurs significations. Ça peut vouloir dire une aide, un consolateur, un avocat, celui qui se tient avec vous, celui qui vous fortifie, toutes les significations possibles de ce mot. Donc chaque fois, il annonce, il y aura un consolateur, et voilà ce qu'il va faire. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Le consolateur, il viendra et il vous enseignera. Le consolateur viendra et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Au chapitre 15, verset 26, il dit, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père ?» L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et donc il dit, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc il dit à ses disciples, vous serez capables de rendre témoignage, parce que le Saint-Esprit rendra témoignage de moi. Et en Jean 16, il nous est dit, au verset 7, il dit, déjà avant, il dit, mais vous posez la question maintenant, où vas-tu? Vous êtes dans la tristesse parce que j'ai dit que je vais bientôt partir. Cependant, je vous le dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, donc il dit plusieurs choses qu'il va faire. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il va montrer au monde qu'ils ont besoin de Jésus à cause du péché. Il convaincra concernant la justice. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il nous est dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc il montre là aussi quel compagnon nous avons avec le Saint-Esprit qui nous enseigne juste ce qu'il faut quand il faut. Il ne nous donne pas une masse d'informations que nous ne pouvons pas gérer. Il nous révèle les choses au fur et à mesure que nous en avons besoin. Il nous conduit dans toute la vérité. Il révèle des choses qui sont cachées dont nous avons besoin. Et il nous a dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Donc aussi, une dimension de nous préparer pour ce que nous avons à affronter. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc il annonce. Donc c'est de cette façon qu'il nous rend capables d'agir, capables de prévoir, capables de pouvoir vivre notre vie. Donc réalisons quelle grâce Dieu nous a fait d'avoir ce compagnon au quotidien. Je vous rappelle le verset du début, il nous est dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Développez cette relation avec le Saint-Esprit chaque jour. Et donc comme j'avais eu l'occasion de dire, il y a quelque chose qui est absolument nouveau dans ce que nous vivons en tant que chrétiens, que d'autres croyants de la Bible n'ont pas connu, c'est qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Et ça s'est exprimé dans 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous ne le savez-vous pas? Est-ce que vous en êtes conscient de ça? Et dans 1 Jean 4:4, dans l'épître de Jean, il nous est dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans ce que nous devons vivre dans le quotidien, Jésus avait dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des moments difficiles, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Et c'est une façon dont nous pouvons prendre courage de dire, je ne suis pas seul dans cette situation. Je ne suis pas seul dans mon quotidien. J'ai celui qui est plus grand qui est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. On peut le dire ensemble ? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.